Alors, bonjour à tous en ce mardi 10 octobre. Bah, petite journée pluvieuse, mais j'ai plein de soleil autour de moi. mes précieux collègues. Alors, Sylvie Dion.
L'équipe du mardi.
L'équipe du tonnerre. Et Louis de Bernis.
Bonjour, bonjour.
On commence à bien les connaître maintenant. Hein? Ce sont des habitués. Alors, Sylvie.
Alors, trois textes aujourd'hui. D'abord, une question bien légitime. Manger bio, est-il meilleur pour la santé?
Bonne question.
C'est une bonne question, hein? Puis, côté sciences alimentaires, une petite révolution se prépare dans la conservation des aliments. Et finalement, il y a du gingembre qui pousse en Outaouais. Mais oui.
Ben oui.
Une plante exotique
ben
en
oui.
Outaouais.
Étonnant, en Outaouais. Et Louis?
Pour ma part, nous parlerons de la planète aujourd'hui. Nous irons dans la mer pour recevoir des conseils beauté, dans les airs pour voir le problème qu'il y a. Et puis nous parlerons d'un gros caillou aussi.
Et vous, Michel?
Et
vous
de mon côté, je vous amènerai faire un tour à Washington. Washington qui est un peu méconnu. Hein? Les gens connaissent New York, mais Washington un peu moins. Puis, question climat. Quand le climat rend malade? Nous, ici au Québec, on est habitués à des changements climatiques. Ça fait longtemps qu'on connaît, nous, les changements climatiques. Hein? On passe de l'été au printemps, parfois même à l'hiver, très rapidement.
Dans la même journée, des fois.
Ah, tout à fait. Alors, on sera avec vous dans un instant. Alors, je vais jamais faire retour à Washington.
Allons-y, c'est déjà plus accessible que
oui.
Certaines îles dont vous nous parlez.
Bon, tout le monde connaît New York, tout le monde veut aller à New York. 60 millions de touristes hein, visitent la grosse pomme. Je me questionne toujours, il faut que j'aille voir, qu'est-ce que c'est le Big Apple? Pourquoi on a lancé cette chose-là, la grosse pomme? Et j'oublie toujours d'aller faire une vérification. Alors, je vous amène à Washington, pas l'État de Washington, la ville de Washington. C'est très différent, hein?
Mm-hmm.
Washington, qui est dans quel état?
Washington, D.C., District of Columbia.
District of Columbia, il n'y a pas d'état comme tel. Hein. On n'a pas voulu que la capitale soit...
C'est notre Vatican, nous.
C'est
on n'en fait pas à nous, aux États-Unis.
Vatican ou Fatigan, ça dépend de qui on parle. Donc, Washington, c'est plutôt discret. Il y a trois fois moins de visiteurs qu'à New York, mais la capitale fédérale américaine a quand même des charmes, il y a plein de choses. Particulièrement, je me souviens d'être allé au mois d'avril, au printemps, vous avez des... Oh, tout est en fleurs, les cerisiers en fleurs. C'est magnifique pendant une certaine période. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Je vais faire un petit tour d'horizon de toutes sortes de choses à visiter. Entre autres choses, le National Mall. C'est un parc magnifique qui est à mettre en haut de votre liste. C'est là que se trouvent beaucoup de mausolées qui sont très connues. Par exemple, le Washington Monument, des monuments de guerre auxquels ont participé les États-Unis, ou encore le Musée national d'histoire américaine. Ce qui est intéressant, c'est gratuit. Et plusieurs des musées à Washington sont gratuits. Le cimetière d'Arlington. Parfois assez intéressant. Dans différents pays, je vois visiter des cimetières et on trouve des... Par exemple, je me souviens en Angleterre, le nom des poètes tout à coup qu'on trouve sur des... Assez intéressant. Comme de nombreux cimetières aux États-Unis, vous pouvez visiter cimetières militaires. C'est un cimetière militaire. Hein? Près de 300 000 soldats y sont enterrés. Et certains sont morts durant la guerre d'indépendance. Il y a une particularité. À l'arrière des tombes peut apparaître le nom de l'épouse.
À l'arrière.
Oui, à l'arrière.
Oh bon.
C'est un cimetière militaire. Et c'est dans ce cimetière que la famille Kennedy est enterrée, notamment John Fitzgerald Kennedy et Jacqueline Kennedy aussi. Et c'est un cimetière qui est absolument immense. Hein. Il faut, comme dans plusieurs endroits, prendre un plan du cimetière ou ne pas hésiter non plus à prendre une navette qui se promène à travers, qui va vous montrer les endroits où sont des personnes célèbres, importantes. Bien sûr. Vous avez le Smithsonian? Et c'est un ensemble de... En fait, le Smithsonian, c'est un ensemble de musées qui sont répartis entre New York et Washington. 19 musées. C'est une institution qui comprend également un zoo. C'est impossible de quitter Washington sans avoir parcouru plusieurs des musées, dont le musée de l'histoire afro-américaine, celui de l'air, de l'espace, et encore une fois, c'est gratuit. Le Lincoln Memorial, on l'a vu souvent à la télévision de Lincoln, on pense à connaître, mais lorsque vous vous trouvez devant cette statue d'Abraham Lincoln, c'est tout à fait imposant, hein? C'est gigantesque. Dans ce mémorial construit en marbre blanc, on ressent comme l'histoire. C'est d'ailleurs à partir de cet endroit que Martin Luther King a prononcé son célèbre « I have a dream ». Je pensais que c'était vraiment passé l'histoire. Hein. Parlant de Lincoln, vous avez aussi le théâtre Ford. Et c'est ici qu'Abraham Lincoln a été abattu le 14 avril 1865. Et aujourd'hui, c'est un musée et encore une salle de théâtre. Encore une fois, c'est gratuit. Il faut arriver tôt, hein, parce que, évidemment, tous ces endroits-là sont... Il y a des cohues à certains moments. Et on peut se joindre à un guide pour apprendre une partie de l'histoire américaine. Bon, pour ceux qui aiment les choses un peu macabres, vous avez encore le manteau d'Abraham Lincoln taché de sang et puis l'arme qui l'a tué. Vous avez un autre endroit, le Mémorial des vétérans du Vietnam. Très imposant. Le National World War II Memorial et le plus intimiste, le plus émouvant. Près de 60 000 noms sont gravés sur un mur de granit noir dans l'ordre chronologique de leur mort. Je parle bien de la guerre du Vietnam. Là. Il n'est pas rare d'y croiser des vétérans ou des familles qui viennent s'y recueillir. Bien sûr, si vous êtes à Washington, vous allez vouloir passer à la Maison-Blanche. Allez saluer votre ami d'abord. Hein? Et c'est le lieu incontournable. C'est, attention, y pénétrer, c'est assez difficile. Hein? Vous imaginez les mesures de sécurité maintenant? Il faut réserver à l'avance. On dit même 6 mois à l'avance. Et oublier des photos et de faire le tour de la Maison-Blanche, pas vraiment, on ne peut pas le faire. Mais à l'intérieur, on a quand même l'impression de revivre des scènes qu'on a visionné plusieurs fois dans des films, des reconstitutions de la Maison-Blanche. Il y en a eu des tas dans des films. Et bien sûr, le Capitole. Capitole qui est siège du Congrès américain. Il y a deux solutions pour visiter le bâtiment, qui a été construit en 1812 d'ailleurs. Vous réservez à l'avance ou faire la queue le jour même. À ne pas conseiller, ça peut être très, très long. L'attente vaut le coup, mais réserver à l'avance, c'est mieux. Rien que pour voir la rotonde, magnifique, avec des peintures anciennes. Et vous allez croiser, si vous les connaissez, des députés et des sénateurs qui sont de passage souvent. On a vu dernièrement qu'ils sont de passage assez rapidement. Donc, je crois que c'est un petit tour d'horizon de Washington, qui peut être une visite assez intéressante. Ah, il y a un endroit que j'ai oublié de mentionner, qui est assez connu aussi, qui est le Watergate. Watergate, en fait, c'est un hôtel. Hein. C'était le centre du congrès du Parti démocrate. Et on se souvient du Watergate. Pourquoi? Il y a un nom qui est collé au Watergate. Hein. Notre ami Nixon, qui avait un surnom assez spécial en anglais, ce que moi, je n'ai jamais été capable de transposer vraiment en français. Tricky Dicky. Vous savez, c'est un magicien, hein? C'était un magicien. Il était capable de faire disparaître des bandes rapidement. Donc, évidemment, il y a eu le scandale. Mais c'est intéressant parce que vous avez une vue magnifique à partir du Watergate. Une vue magnifique particulièrement sur le Potomac. Le Potomac, que j'ai appris lorsque j'ai visité Washington, et je disais que le Potomac River, et c'est Potomac River.
L'accent sur la deuxième syllabe.
Tout à fait, sur la deuxième syllabe. Et voilà mon petit côté linguiste qui remonte à la surface. Un petit tour d'horizon de Washington, printemps magnifique à visiter. C'était tiré de la presse.
Merci.
C'est lui?
on répond à la question cruciale. Manger bio est-il meilleur pour la santé? C'est un texte de Bernard Lavallée dans la presse du 5 octobre. Quand je donne des conférences où j'aborde l'agriculture biologique et ses potentiels bienfaits pour l'environnement, systématiquement une main se lève pour me questionner à propos de son impact sur la santé humaine. Pour expliquer la situation, j'estime que deux facettes du sujet doivent être explorées. D'abord les nutriments et ensuite les pesticides. Du côté des nutriments, plusieurs facteurs influencent la valeur nutritive des aliments. Dans le cas des fruits et des légumes, par exemple, la quantité d'eau, le climat, le sol, la variété et l'ensoleillement reçu modulent les teneurs en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Or, de temps en temps, on voit paraître des études qui déclarent que les aliments biologiques sont plus nutritifs que ceux cultivés de façon conventionnelle. Prenons l'exemple d'une recherche, fictive mais fortement inspirée de ce qui se publie dans le domaine, et qui conclut que dans les pêches biologiques évaluées, il y avait 20 % de plus de vitamine C que dans les pêches conventionnelles. Ces résultats ne concernent qu'un fruit et qu'une vitamine. On trouve toutefois des milliers de molécules différentes dans les aliments. Il y en a qu'on connaît et qu'on étudie, mais d'autres pas encore. Celles-ci sont tout de même potentiellement utiles et interagissent certainement une fois ingérées. La vitamine C n'est pas plus importante que les autres. Dire qu'un aliment est plus nutritif parce qu'il offre un peu plus d'une vitamine est trop simpliste et même incomplet. Il pourrait très bien aussi contenir moins de certains autres nutriments non évalués. C'est sans compter qu'on ne peut pas franchir l'étape suivante et déclarer ces aliments comme « meilleurs pour la santé » entre guillemets parce qu'ils renferment plus d'une seule vitamine. À une époque où la carence en vitamine C est à peu près inexistante, avez-vous vraiment besoin de 20 % supplémentaires? Cela étant dit, bien que certaines études trouvent ce genre de différence, lorsqu'on regarde les résultats de façon globale, ces deux méthodes d'agriculture semblent produire des aliments assez équivalents d'un point de vue nutritionnel. Le cas des pesticides maintenant. Les herbicides, les insecticides et les fongicides de synthèse sont des produits utilisés en agriculture conventionnelle. Les travailleurs sont exposés à de plus grandes doses et plus fréquemment que nous à ces molécules. On a associé cette exposition aux produits agrochimiques à des cancers, des malformations congénitales, des problèmes respiratoires, des fausses couches et la maladie de Parkinson. Ainsi, plusieurs se demandent si nous, comme consommateurs, mettons notre santé à risque en ingérant ces cocktails de pesticides. Il est évident que les aliments biologiques contiennent moins de traces de ces produits que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Cela étant dit, nous mangeons déjà peu de pesticides et à ces quantités, il n'est pas possible de prouver que ceux-ci ont un impact sur notre santé. Évidemment, je suis d'avis qu'un travail sur le plan de la réglementation doit être fait pour éliminer ceux qui semblent les plus suspects. Mais même si on découvrait demain matin que certains pesticides de synthèse sont dangereux aux doses où nous les consommons, ce ne serait pas la fin du monde. En fait, manger des fruits et légumes est tellement bon pour la santé qu'il nous protège contre les risques potentiels de ces molécules. S'en priver sous prétexte qu'ils contiennent des pesticides est probablement plus risqué. Ça peut sembler plate comme conclusion, mais ça ne veut pas dire que le mode de production biologique est inintéressant. Au contraire, même si d'un point de vue de la santé individuelle, on n'est pas capable de prouver que les aliments biologiques sont meilleurs, il reste qu'en achetant ces derniers, on protège la santé de ceux qui produisent notre nourriture. Et c'est sans compter que les pesticides de synthèse de l'agriculture conventionnelle se retrouvent dans l'air, l'eau et le sol et qu'ils affectent la santé des écosystèmes et donc plus largement la nôtre. Donc une conclusion qui n'en est pas tout à fait une, sauf qu'il faut peut-être faire attention à toutes les études qui paraissent.
Oui, tout à fait. C'était assez marquant du côté des pesticides. Mm-hmm. Et ça rejoignait... Un sujet qu'on avait de la semaine passée, vous vous rappelez quand j'ai parlé de l'atrazine avec les conséquences.
Effectivement. Ouais,
l'atrazine et la Roundup aussi. Hein.
Voilà.
Merci.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions
le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
On retourne 54 ans en arrière avec Serge Gainsbourg, la javanaise.
Ah oui, bien sûr.
Poursuivons oui. Après Sylvie avec... nous allons continuer en fait avec toutes ces histoires de molécules de bien-être, de santé et de nature. Parlons aujourd'hui du problème, s'il en est un, en tout cas du phénomène des rides. Eh bien, il y a une entreprise qui nous vient de Rimouski qui a, grâce à un animal... très original, ce n'est pas forcément le premier auquel on pense, à trouver un remède. Il s'agit, eh bien, il faut regarder dans les étoiles, l'étoile de mer.
Ah oui ?
L'étoile de mer, comme la salamandre, a un pouvoir régénérateur. Ainsi, si elle se fait amputer d'un bras, il repoussera grâce à un liquide qu'elle possède. Or, une entreprise rimousquoise a découvert qu'en extrayant une partie de ce liquide et en l'intégrant à des crèmes topiques, celui-ci avait des vertus hydratantes, anti-rides et anti-âge.
Waouh.
On a découvert qu'il y a, à l'intérieur d'une cavité de l'étoile de mer, ce qu'on appelle le liquide colomique, explique le président et directeur général d'Innovactive, Patrice Dionne. On a pris ce liquide-là et on l'a testé sur des cellules de peau. On a trouvé que l'activité se transposait. On a capturé le pouvoir régénérateur de l'étoile, puis on l'a stabilisé et intégré dans ces produits-là, qui font l'objet d'études cliniques. On a démontré un bénéfice sur la peau. Monsieur Dion soutient qu'Innovactive est la seule compagnie nord-américaine, voire la seule au monde, à utiliser l'étoile de mer dans une perspective de respect de l'animal et de l'écosystème marin, dans une vision d'exploitation durable. L'entreprise détient d'ailleurs un brevet d'application pour ce procédé. Puisque l'étoile de mer est une prédatrice de la moule, Innovactive fait affaire avec des mariculteurs de l'île du Prince-Édouard. Les producteurs de moules récoltent l'étoile dans des bacs d'eau salée. On a développé un procédé d'extraction qui n'est pas dommageable pour l'étoile, tient à mentionner le dirigeant de l'entreprise scientifique. Une fois qu'on a récolté le liquide colomique, l'étoile est retournée en vie dans son milieu naturel. C'est ce liquide colomique qu'on stabilise ensuite dans une formulation et qui, après ça, est commercialisé dans l'industrie du cosmétique. Innovactive vend l'ingrédient à des compagnies de fabrication de produits cosmétiques. On ne fait pas de produits finis, spécifie le directeur. Un autre produit phare d'Innovactive est dérivé d'algues brunes, décidément la mer, puisée dans l'est du Canada maritime. Le produit, appelé In-Situ, est un ingrédient composé de toutes pièces dans les laboratoires de l'entreprise Bas-Laurentienne, à partir de la biomasse marine et pour laquelle elle a développé un procédé d'extraction. Ce qu'on cible, ce sont les polyphénols. Ils sont dans ces algues-là et pour lesquels on a révélé une activité bénéfique pour la santé humaine en régulant le métabolisme du glucose santé. Le produit agit sur les enzymes qui sont impliquées dans la digestion des sucres, puis il ralentit la vitesse à laquelle notre corps absorbe les glucoses. In situ se présente sous forme de poudre brune, un peu comme le cacao, mais sans le goût ni l'odeur. Le produit est utilisé par des formulateurs de l'industrie dans des suppléments alimentaires. Le laboratoire d'Innovactive est situé à Rimouski. Les bureaux des ventes et de développement des affaires ont pignon sur rue à Québec. L'entreprise compte 11 employés seulement, mais est très active. Son marché se trouve en Amérique du Sud, mais aussi en Europe et principalement en Asie, ainsi qu'aux États-Unis. Là où on a fait une percée intéressante, c'est sur le marché asiatique, dont la Chine, se réjouit le PDG. Le Canada représente une infime partie de son chiffre d'affaires, avec pourtant des produits des animaux bien d'ici.
Mais oui. Ah bon. Une énergie renouvelable, vu qu'on réutilise des étoiles,
étoiles de mer. C'est sans fin.
Donc, on va rechercher des crèmes avec de l'huile économique.
Exactement.
Oui. Attends, on ne sait pas la quantité que ça prend véritablement, parce que toutes ces choses-là, tout à coup, on met des noms. Tout à coup, il y a eu la période de Aloes Vera, à un moment donné. Il y avait une goutte d'Aloes Vera dans tout l'ensemble. Là. Alors, c'est un coup d'on va suivre quand même, c'est intéressant.
Rester dans les révolutions, révolution de la conservation alimentaire maintenant. C'est un texte de Mathieu Perrault dans la presse du 8 octobre. Conserve savoureuse, mais préparée, restant comestible 2 mois plutôt que 2 semaines. Une nouvelle méthode de stérilisation et de pasteurisation par micro-ondes promet une révolution alimentaire. La technologie américaine a fait les manchettes au début septembre quand une fuite a révélé que le géant Amazon s'y intéressait. Quelle est donc cette technologie? Il s'agit de la stérilisation thermique assistée par micro-ondes et de son petit nom MATS, M-A-T-S, selon l'acronyme anglais. Ça permet de diminuer le temps de cuisson nécessaire pour assurer la conservation des aliments. On parle de 6 ou 7 minutes à 250 degrés Celsius plutôt qu'une heure pour la stérilisation thermique traditionnelle, essentiellement la mise en conserve. C'est une explication de Mary Anderson, qui est relationniste à la firme 915 Labs, qui commercialise la technologie, laquelle a été mise au point à l'Université de Washington. Cela permet de... Washington, l'État, cette fois-ci, et non la ville, comme tantôt, l'Université d'État de Washington. Ça permet de conserver le goût, la texture et les nutriments. On n'a pas besoin d'ajouter autant de sel et d'additifs alimentaires pour compenser. De plus, on réduit l'utilisation d'eau, ce qui est un facteur pour certains pays. Dans le cas de la pasteurisation, au lieu de passer 6 minutes à 120 degrés, la MATS ne prend que 2 à 10 minutes à 60 degrés. Les aliments pasteurisés doivent être conservés au froid, contrairement aux conserves, et le nom de la firme 915 Labs fait référence à la fréquence utilisée pour la MATS, soit 915 MHz. Nous sommes en discussion avec de nombreuses entreprises de commerce électronique, mais nous n'avons pas fait d'annonce relative à Amazon, explique Mme Anderson en entrevue dans ses bureaux de l'Indiana. C'est une fuite qui est à l'origine des récents articles. Nous avons actuellement une unité de R&D, recherche et développement, permettant de produire 100 unités d'un produit à chaque heure. Ça permet à nos partenaires de mettre au point des produits, de les tester auprès des consommateurs et de recevoir l'approbation des autorités sanitaires. La version commerciale aura une capacité de 30 unités par minute, soit 10 millions par année. 915 Labs lancera tout d'abord sa technologie MATS, puis seulement après, la pasteurisation par micro-ondes. Une version R&D de la pasteurisation est prévue quand même pour l'an prochain. Si on regarde la conservation de deux vitamines, à titre d'exemple, la stérilisation thermique traditionnelle permet de conserver 30 % de la vitamine B, tandis que 70 % de la vitamine B est conservée avec la stérilisation thermique par micro-ondes. Du côté de la vitamine C, c'est 5 % pour la méthode traditionnelle contre 55 % avec la stérilisation avec MATS. La première unité de R&D a été livrée à Singapour. L'Asie, en particulier l'Inde, est un marché particulièrement prometteur parce que la chaîne du froid dans le commerce alimentaire n'y est pas très développée. Les produits stérilisés par Matt sont intéressants parce qu'ils conservent leur goût et leur qualité sans qu'on doive les réfrigérer. Et la pasteurisation? Elle sera ciblée Nous ciblerons la pasteurisation des mets préparés à haute valeur économique, mais pas pour le lait ou les trempettes comme le houmous ou le guacamole. Selon le biologiste de l'Université de Washington qui a mis au point cette technologie, les hôpitaux, les écoles et les lignes aériennes s'intéressent particulièrement à la pasteurisation par micro-ondes. Le biologiste travaille sur la MATS depuis plus de 20 ans. Quand on m'a engagé à l'Université de l'État de Washington, on m'avait demandé de trouver un domaine de recherche avec un potentiel révolutionnaire à moyen terme. Ma formation était en nutrition, mais j'avais fait beaucoup de maths. Les mathématiques. Les micro-ondes domestiques s'amélioraient sans cesse. J'ai donc décidé de travailler sur des applications industrielles. Nous avons eu en 2001 des subventions de recherche militaire. L'armée souhaite en effet améliorer les repas des soldats. L'appui de l'armée a été important pour avoir l'approbation de la FDA, l'application fédérale pour l'alimentaire.
Oui, fédéral.
Federal Department of
Agriculture.
Oui, c'est ça. Un premier partenaire industriel n'a pas réussi à commercialiser le produit, la MATS, et c'est ainsi que 915 Labs a racheté la licence en 2014. Alors voilà une technologie qui semble prometteuse et qui sera à suivre.
Mm-hmm. Oui. Bon, je vais vous parler de la tablette anti-stress. Ben, tous les parents le savent, pour avoir la paix, ben, il suffit de coller les enfants devant un écran. Hein? Les rejetons sont immédiatement hypnotisés, la bouche ouverte. Ben, des anesthésistes français proposent d'exploiter cet effet pour distraire les enfants s'apprêtant à subir une intervention chirurgicale. Dans une étude présentée, c'est sérieux, hein? Une étude présentée en septembre lors du Congrès mondial d'anesthésiologie, un docteur de Lyon a démontré que le fait de jouer pendant 20 minutes sur un iPad était aussi efficace que le midazolam, qui est un anxiolytique pour réduire l'anxiété des enfants avant une anesthésie générale. Et encore mieux, ben, cette technique permet aussi de réduire l'anxiété des parents.
Wow. Mais
quand même, c'est bien.
Plein d'innovations.
Bien oui, c'est extraordinaire. La tablette anti-stress.
Sauce, c'est dangereux. Une brésilienne, si elle est fausse, c'est dangereux. Trop de beurre sur ton pain, c'est pas bien du tout. Les choux de Bruxelles au vacherin, là, t'as vraiment pas de goût. Si elle est trop jeune et que t'es trop vieux, c'est pas permis. Le gras du jambon dans le jambon, pas permis. Les yeux de la couenne dans le bouillon, c'est pas bien du tout. Manger la peau du saumon, là, faut vraiment être fou. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. La tartiflette, le camembert, le rouge, le blanc, la bière. Enfoncer son doigt dans un pudding, tremper deux fois ton brocoli dans la trempette, faire l'amour en gardant tes chaussettes. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit. Tout ce qui est bon, c'est malheureux. Et le malheur, c'est dangereux. Faire un finger à un taxi, les doigts dans le nez dans le clafoutis, lui dire au revoir dès que t'as joui, casser la gueule à tous les plus petits, regarder les fesses de la blonde de ton meilleur ami, un bain de soleil avec pas de burkini. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Passer les loulous sur la plage, regarder passer les moules aussi d'ailleurs. Faire de la moto sans son casque, faire du porno sans mettre un masque. Péter au lit dans le lit de la meilleure amie de ta petite amie. Tout ce qui est bon n'est pas sage. Tout ce qui est bon fait des ravages. Tout ce qui est bon est pas permis. Tout ce qui est bon est interdit.
Petite énumération de tout ce qui est bon est interdit. C'était la nouveauté de Jamil Azaoui.
Alors Louis, on poursuit.
On poursuit avec un autre sujet de nature et une statistique impressionnante. Le chiffre 1 million. 1 million d'oiseaux, c'est énormément d'oiseaux. 1 million d'oiseaux tués malheureusement chaque année. Et non, pardon, 1 million d'oiseaux tués chaque jour. En Australie seulement, et pour une fois, ce n'est pas l'homme qui est en cause, c'est un autre problème qu'il faudra régler, c'est celui des chats. Les chats errants et les félins domestiques tuent plus d'un million d'oiseaux par jour en Australie, ce qui provoque le déclin de nombreuses espèces, selon une étude publiée la semaine dernière.
Par jour, c'est incroyable.
Par jour.
Ça,
pour se nourrir.
Exactement. Les chercheurs de l'université australienne de Charles Darwin estiment que les chats errants engloutissent 316 millions d'oiseaux chaque année et les matous domestiques 61 millions, ce qui nous amène à cette statistique de 1 million par jour. Mmh. Tout le monde sait que les chats tuent les oiseaux, mais cette étude montre que sur un plan national, l'ampleur de la prédation est ahurissante, a déclaré John Wonarski, le directeur des recherches. Il est vraisemblable que cela explique le déclin en cours de nombreuses espèces. Ces chiffres sont des estimations établies à partir d'une centaine d'études menées à travers l'Australie par des spécialistes de l'environnement sur le régime alimentaire des chats, données croisées avec la densité de la population féline. Les taux les plus élevés de prédation se retrouvent dans les îles australiennes et dans les régions reculées et arides où chaque année les chats peuvent tuer 330 oiseaux par kilomètre carré. Les chats errants, qui sont plusieurs millions, sont aussi considérés comme responsables de l'extinction de mammifères. Plusieurs espèces ont disparu depuis leur introduction par les colonisateurs européens il y a 2 siècles. Pour l'heure, les campagnes de stérilisation n'ont pas renversé la tendance. Les félins tuent des oiseaux de 338 espèces différentes, y compris 71 espèces en danger, comme la colombine marquetée ou la perruche nocturne. On a découvert que les oiseaux les plus susceptibles d'être chassés sont de taille moyenne, des oiseaux qui nichent et s'alimentent au sol, et les oiseaux présents dans les îles, les régions boisées et les prairies, a ajouté M. Wonarski. Les chats représentent un problème ancien, étendu, contre lequel il faut lutter plus efficacement. Les autorités ont mobilisé plus de 30 millions de dollars australiens pour des projets destinés à réduire les dégâts des chats errants sur la faune sauvage. Voilà pour ce phénomène peu connu et très impressionnant.
C'est très impressionnant.
Pour un grand pays, certes, mais qui dont malheureusement la faune est en danger.
Ouais, la terreur du minou.
Ouais. Alors, Hitchcock aurait pu faire un nouveau film.
Oui,
hein?
Les
The Birds
chats.
Ou The Cats. C'est marrant.
Thank you.
beaux souvenirs du festival de jazz. Je me rappelle le groupe-là quand il était venu la première fois. Il me semble que c'est Cuatro Nuevo, si je ne me trompe pas. Magnifique. Bon, quand le climat rend malade, les soubresauts du mercure sont si fréquents, on sait quelque chose ici, hein? Les responsables de la santé publique n'ont d'autre choix que d'en tenir compte. Près de 30 millions de dollars, c'est la dépense qui pourrait être évitée par le système de santé au Québec, ici, chaque fois qu'il y a une canicule. 30 millions d'heures. Et pour ça, il suffirait d'avertir individuellement les personnes les plus susceptibles de souffrir d'un malaise grâce à un système téléphonique automatisé afin qu'elles s'hydratent ou trouvent un endroit frais. Et ce genre d'intervention ciblée diminue de moitié le recours à des services médicaux. Et ça, c'est l'Institut national de santé publique du Québec qui nous avertit de cet événement. Beaucoup de personnes vulnérables ne se sentent pas concernées lorsqu'on diffuse des messages de prévention générale à l'ensemble de la population.
Est-ce qu'on est déjà prévenu par les services météo, entre autres?
Ben oui, c'est ça. On est envahi par la météo. Hein? Oui. J'en reparlerai dans un autre temps, peut-être, dans quelques semaines. Par contre, si leur propre téléphone sonne, le message semble beaucoup plus convaincant. Alors, dans le prochain mois, l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique, va prendre son bâton pèlerin pour diffuser à la grandeur du Québec les résultats de cette étude et inciter les autorités à mettre en place de tels systèmes. Les responsables de la santé publique n'ont plus le choix. Ils doivent tenir compte de la météo en cette époque de changement climatique. On sait, on passe d'un élément à un autre. C'est une science, la biométéorologie interdisciplinaire. C'est en plein essor. Et ça étudie les effets de la météo sur la santé des humains et des êtres vivants. Le congrès 2017 de la Société internationale de biométéorologie a eu lieu en septembre au Royaume-Uni. Et ça porte justement sur des gestions des risques liés au changement. Des climatologues, météorologues, médecins, épidémiologistes, spécialistes ont discuté de la façon dont les grandes organisations, les systèmes de santé, doivent adapter leurs pratiques. Les chercheurs de partout sur la planète tentent d'utiliser les prévisions météo pour adapter les ressources hospitalières en cas d'épisode. Par exemple, de smog. On sait de plus en plus dans de nombreux endroits, de nombreuses villes, hein, de smog. Au Royaume-Uni, le service de météo national fournit aux médecins de première ligne et à leurs patients des prévisions de conditions défavorables qui pourraient avoir un certain effet, sur le comme la maladie pulmonaire obstructive, hein, évidemment influencée par le smog. Hein. Des chutes brutales de la pression barométrique font souffrir les gens atteints d'arthrite. La chaleur incommode ceux qui sont aux prises avec la sclérose en plaques. Dès que le mercure atteint 25 degrés Celsius. C'est très ciblé, hein, très précis, et on le sait. Et le froid augmente les risques d'infarctus. Pour ces maladies avec les variables météo, c'est très bien documenté. C'est notamment le cas de la migraine aussi, qui pourrait, semble-t-il, être déclenchée par une forte variation de la pression barométrique. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de données sur ces variations-là. Les personnes atteintes d'une maladie chronique sont évidemment celles qui souffrent le plus quand le temps fait des siennes, car leur corps, qui est déjà mal en point, s'adapte difficilement à un stress supplémentaire. La chaleur a des effets sur beaucoup de monde dès l'âge de 40 ans. Parce qu'on dit souvent canicule, attention, des personnes âgées, 40 ans quand même.
Hein? Les personnes âgées de 40 ans.
Les personnes âgées 40 ans, oui, c'est ça. Et des températures bien moindres que celles des grandes canicules. On en a même sur des gens qui ont une physiologie dans la moyenne. Les malaises, l'essoufflement sont au rendez-vous. Le froid augmente la viscosité du sang et la pression sanguine, ce qui explique en partie que les infarctus sont plus fréquents en hiver. Et il suffit d'une importante chute de neige suivie d'une vague de froid pour que des personnes sorties pelletées finissent à l'hôpital. Donc, ce n'est pas uniquement le fait...
Ce n'est pas
nécessairement l'effort. C'est la condition climatique, le froid comme tel. Les écarts de température à la hausse ou à la baisse sont en soi mauvais pour la santé. Une équipe internationale composée de chercheurs de 12 pays, dont le Canada, a démontré une association entre la mortalité et les grandes variations de température dans une même journée. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une recherche. Ils ont compilé les décès non accidentels survenus pendant plus de 10 ans dans 372 villes du monde. Ils ont mis en relation avec les conditions de météo. humidité, température maximale, minimale. Les résultats indiquent qu'une plus grande attention devrait être prêtée aux conditions météo instables. Donc, dès qu'il y a une instabilité, il va y avoir des gens qui vont être nécessairement affectés. Une équipe s'intéresse à d'autres variables qui pourraient avoir un effet sur la santé, dont les tempêtes hivernales et l'humidité. On connaît ça ici, on connaît bien. Hein? Et un automne plus humide qu'à l'habitude semble causer davantage de problèmes cardiovasculaires dans les mois suivants. Donc, il y a une espèce de prévention à faire. Là. La détresse psychologique engendrée par les événements est également prise au sérieux. Il y a 2 ans déjà, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, a commencé à offrir des cours en ligne destinés aux médecins et aux infirmières pour les sensibiliser à la détresse vécue par des sinistrés, par exemple après une inondation. On en sait quelque chose. Au mois de mai, on sait la détresse de ces gens-là qui se poursuit hein, dans le moment, cette détresse-là. Alors, les inondations constituent les catastrophes les plus courantes au Québec. On a vu un très bel exemple récemment. Et tous ne sont pas égaux devant des soubresauts atmosphériques. Outre l'âge et l'état de santé, un tempérament nerveux semble rendre certaines personnes plus sensibles à l'état du ciel. Un météorologue Environnement Canada s'intéresse aujourd'hui à ce champ d'études et a publié en 2015 le fruit de ses explorations dans un ouvrage qui s'appelle « Les baromètres humains ». Et il rêve du jour où les bulletins météo offriront des indicateurs biométéorologiques pour mieux informer les personnes sensibles. Dans le moment, le facteur de refroidissement éolien, l'indice UV, existe déjà. Mais lui, il travaille à la création d'indicateurs pour les risques d'infarctus, des idées dépressives et plusieurs autres maladies. Donc, on aura peut-être une icône avec une figure de quelqu'un dépressif ou à quand un indice migraine sur Météo Média ou quelque chose du genre, quelqu'un qui se frappe la tête, par exemple. Alors voilà, on prend ça au sérieux, hein, de toute façon. Alors, quand le climat rend malade, c'est tiré de l'actualité.
On parle de climat, oui. On ne s'attendrait pas à trouver du gingembre dans l'Outaouais.
Ah, ça, c'est étonnant, ça.
Et pourtant, c'est un texte de Ève Dumas dans la presse du 16 septembre. Ça fait un petit bout que je le traîne, celui-là. Bien que les Québécois l'utilisent beaucoup, le gingembre n'est pas exactement un produit local. Ou du moins, il ne l'était pas jusqu'à tout récemment. 2 fermes biologiques d'ici ont remédié à ça. À l'automne, leurs propriétaires feront une première grosse récolte de bébés gingembre dans les serres. À la ferme Chapeau-Melon, dans l'Outaouais, la production a quintuplé depuis l'été dernier. François Biron, qui serait le premier à avoir expérimenté cette culture, devrait sortir de terre 500 kilos de gingembre tout frais. C'est ce qui permet à la ferme biologique de l'Outaouais d'offrir son beau rhizome frais à Montréal et à Québec maintenant. À la ferme aux petits oignons, à Mont-Tremblant, on est passé de 400 kilos en 2016 à 1200 kilos cette année. Doublé donc, Véronique Bouchard et François Henfield ne sont pas peu fiers de leur réussite. La maraîchère explique « C'est vraiment une innovation et on a travaillé fort pour développer la méthode de culture. Dans le Nord, on utilise une serre chauffée pour donner une chance à la plante tropicale. » Pourquoi parle-t-on de bébé gingembre? Parce que la saison de croissance du gingembre est normalement de 10 mois. Le nôtre n'arrive donc pas pleinement à maturité, explique François Biron de la ferme Chapeau-Melon. On le part en février, dans un entrepôt, sous des néons, et on le transplante dans notre serre non chauffée pour l'été, puis on le récolte en septembre. À 7 mois, le gingembre n'a pas encore fait sa peau beige et il est moins fibreux. C'est ce que nous avons constaté en testant le produit à quelques reprises. Sa belle peau de bébé, crème et rose, n'a pas besoin d'être pelée. De par sa fraîcheur et l'absence de fibres, la racine se coupe et se râpe à merveille. Même le petit bout de tige verte laissé sur le rhizome est comestible. Quel est donc le hic? Le hic, c'est qu'il ne se conserve pas plus de 2 semaines, à moins d'être congelé. Ah. Et une fois septembre passé, il faut attendre la récolte de l'année suivante. François Biron a décidé de faire pousser du gingembre pour se démarquer et pour rentabiliser sa serre pendant la belle saison. Tôt le printemps et tard l'automne, elle abrite des verdures. L'été, la ferme Chapeau-Melon fait pousser de l'ail et des melons en pleine terre à l'extérieur. La patate douce et les courges font également partie du catalogue. J'ai 37 ans, j'ai parti la ferme à partir de rien, il y a quelques années, raconte l'ancien employé du ministère de l'Agriculture. Le modèle populaire à ce moment-là était celui des fermiers de proximité avec les paniers bio, etc. Mais ça m'intéressait plus ou moins. On a participé à quelques marchés du week-end, mais avec 3 enfants, j'avais pas envie de travailler tout le temps. Et je n'avais pas envie de faire pousser tous les légumes. Alors j'ai décidé de ne faire aucune vente au détail et de plutôt passer par des distributeurs. Pas question alors de récolter des tomates au mois d'août, comme tout le monde. Il fallait être original. C'est ainsi que le maraîcher a décidé d'offrir de belles verdures fraîches à une période de l'année où il y en a moins et de tester le gingembre dans sa serre froide. La production de chapeau-melon augmentera d'année en année avec une diversification possible vers des cultures semblables au gingembre, comme le curcuma par exemple. Parallèlement, M. Biron tentera de trouver un débouché pour le feuillage du gingembre, qui est très odorant et comestible aussi. Les fabricants de tisane sont dans sa ligne de mire. Le gingembre de chez nous n'est pas donné, soit entre 4,50 $ et 5 $ pour 100 grammes, mais François Biron croit que les Québécois seront prêts à payer pour la beauté, la fraîcheur et la rareté du produit. À l'automne, on peut trouver le produit au marché de l'Outaouais, au marché Atwater, au kiosque de Bio Locaux, à Accommodation Bio à Québec et en ligne au Jardin des Anges. Le gingembre de la ferme aux petits oignons, pour sa part, est vendu au marché d'été de Val-David les samedis matins et à la boutique de la ferme, évidemment jusqu'à épuisement des stocks.
Ah oui, le bébé gingembre.
Le bébé gingembre.
Ah, c'est étonnant.
Qui fait son apparition.
Oui.
Restons proches du sol, de la terre et de ce qu'on peut y trouver. Je vais vous parler d'un gros caillou, d'un diamant en fait, qui a fait l'objet d'une vente et qui est d'une taille record. Le plus gros diamant brut au monde a été acheté par le joaillier britannique Lawrence Graff pour 65,6 millions de dollars auprès de la compagnie canadienne Le Cara Diamond. Le groupe d'extraction de diamants Le Cara s'est dit mardi sur son compte Twitter heureux d'annoncer la vente de ce diamant de 1109 carats. Graff Diamonds, la société de Lawrence Graff, a précisé dans un communiqué que les négociations sur cette acquisition avaient duré 1 an. Notre équipe d'artisans hautement qualifiés va s'appuyer sur de nombreuses années d'expérience en travaillant jour et nuit pour garantir que nous rendons justice à ce remarquable cadeau de Mère Nature. La pierre précieuse avait fait l'objet d'une vente aux enchères en juin 2016 à Londres, mais n'avait alors pas trouvé d'acheteur, faute d'avoir atteint le prix de réserve qui était alors fixé à 70 millions de dollars. Le diamant, de la taille d'une petite balle de tennis, est baptisé Lesedi Larona, ce qui signifie « notre lumière » en langue Tswana, a été découvert en novembre 2015 par Le Cara au Botswana, le pays étant le 2e producteur de diamants au monde après la Russie. C'est le plus gros diamant découvert depuis plus de 100 ans et le premier de cette taille à n'avoir jamais été proposé aux enchères. Le record historique du plus gros diamant au monde est toujours détenu par le légendaire Cullinan de 3016 carats, découvert en 1905 en Afrique du Sud. Il avait été transformé en 9 diamants pour les joyaux de la couronne britannique. Ça avait d'ailleurs été une très bonne journée pour cette entreprise, puisque le même jour, une autre pierre de 830 carats avait été découverte au Botswana, soit le 3e plus gros diamant du monde. Voilà pour tous ces gros cailloux qui ont des chiffres à faire pâlir et faire rêver, tant par les carats que par les millions de dollars.
Ça, c'est diamant brut. Hein. Imaginez celui qui doit travailler, l'artisan... La responsabilité.
Mmh.
Alors, on parlait de climat, d'influence sur la santé, et on parlait aussi des inondations qu'on a eues récemment. Mais l'actualité a engagé un médium qui a réussi à entrer en contact avec Noé.
D'accord.
Vous savez, c'est très pratique bonhomme, quand même. Hein? Il a vu la pire inondation d'histoire et il a survécu, contrairement au reste de l'humanité. Météorologue, constructeur de bateaux, prophète, zoologue, élu de Dieu. Il a eu une vie remplie quand même, le bonhomme. Hein? Aujourd'hui, il se demande si une nouvelle colère n'est pas à nos portes. Alors, on lui pose la question, pourquoi devrions-nous craindre un deuxième déluge? Et Dieu a provoqué le premier déluge parce que les hommes étaient devenus mauvais. Et vous croyez que nous sommes redevenus mauvais? Non, mais collectivement, vous êtes épais. C'est encore pire. Les changements climatiques ne peuvent pas être plus évidents. La science est claire et vous continuez à douter parce que c'est trop compliqué de changer. Dieu vous a fait à son image et vous êtes vraiment en train de la ternir, son image. Et j'ai entendu dire que Shiva et Bouddha rient de lui actuellement. Le prochain Noé va se retrouver devant une tâche titanesque. Vous qui l'avez déjà vécu, avez-vous des conseils à lui donner? Franchement, je pense qu'il va l'avoir plutôt facile. Selon les chercheurs, les vertébrés disparaissent à un rythme 114 fois plus élevé que la normale. Chaque espèce qui disparaît, c'est deux animaux de moins à placer dans le bateau. Mm-hmm. À l'époque, j'ai dû me battre avec les rhinocéros pour les faire monter à bord. Il ne voulait rien savoir. Avoir su qu'il était pour disparaître, peut-être que je ne me serais pas donné autant de troubles. Hein? Alors, si j'avais vraiment un conseil à donner à mon successeur, ce serait de se demander s'il a absolument besoin de sauver toutes les espèces. Par exemple, j'aurais peut-être pu laisser des mouches à chevreuil, des maringouins la dernière fois. J'aurais pu laisser tomber. Hein? Et cette fois-ci, qu'enleveriez-vous de la liste? Sans hésiter, l'humain. Vous êtes tellement épais. Alors voilà, petite
la
conversation avec Noé.
On va passer de Noé aux innovations culinaires. Je reste ici. Les smoothies en cubes. On aimerait tous déguster un bon smoothie chaque jour. Mais avouons-le, on manque parfois d'ingrédients frais sous la main et de temps pour le faire. Voulant pallier ce problème, l'entreprise canadienne établie à Montréal, Aliments In Foods, a inventé des smoothies en cubes prêts à être dégustés. Ils sont faits à partir de fruits et légumes mûrs qui sont lavés, coupés, épluchés, pressés en cubes, puis congelés pour un maximum de saveur. Il suffit ensuite d'ajouter un liquide au choix et de passer le tout au malaxeur ou de le secouer dans un contenant hermétique. Sans sucre ajouté, les cubes sont offerts en 5 saveurs colorées. Alors, c'est 5 $ le 300 grammes offert dans la plupart des épiceries.
Petite brève, si vous habitez dans l'Outaouais, que vous nous écoutez et que vous jouez de temps en temps à l'Auto-Québec, eh bien, il serait peut-être temps d'aller vérifier le numéro de votre billet, puisque un lot de 2 millions n'a pas été réclamé encore. Il a été gagné le mois dernier. Rassurez-vous, vous avez encore un peu de temps. Vous avez jusqu'au 6 septembre 2018 pour le réclamer. Il y a d'autres lots qui n'ont pas été réclamés, qui ne sont pas aussi volumineux, mais tout de même, on parle de 130 000 $ ou 240 000 $. Et pour cela, respectivement, vous avez jusqu'au 23 novembre et au 11 décembre prochain. Donc, vérifiez quand vous jouez.
Oui. Des chercheurs américains et bangladais ont mis au point une technologie pour fabriquer de l'encre à partir de la pollution de l'air. C'est un appareil placé à l'extrémité des pots d'échappement des véhicules récupère les rejets des moteurs. On en isole ensuite le carbone qui, combiné à un mélange d'huile, va devenir de l'encre.
Oh, ingénieux!
Ben oui!
Petit fruit à découvrir, arrivé sur les étalages des supermarchés cette semaine, le Nergi, N-E-R-G-I, est un nouveau petit fruit cultivé en France et qui ressemble à un mini kiwi. Légèrement acidulé et sucré, sa peau est comestible et il est une bonne source de vitamines E et C et de minéraux comme le potassium.
On le déguste en collation ou en salade et en bol santé. L'énergie devrait être disponible jusqu'à la mi-novembre.
Alors, mes amis, ceci nous amène à la fin de l'émission. J'espère que nos sujets vous ont plu.
On a fait le tour de beaucoup de choses.
On a fait le tour, c'est ça, absolument, c'est ça. Alors, merci à Sylvie Dion que vous venez d'entendre, à Louis de Bernis, nos fidèles collaborateurs, et aussi à notre public cible, ici, Jean-Sébastien La Liberté. Ben oui! On regarde si on le fait rire un peu, si on le déride ou si on le fait bailler. Hein. C'est important pour nous. Alors, qui est à la mise en onde et au choix. Ne manquez pas dans quelques instants la revue de presse. C'est toujours avec Hélène Denis. Ah, c'est avec François Brodeur. Voilà. Et restez avec nous et on vous souhaite une très bonne journée.